Ça y est, on peut y aller? Ça tourne? Bien, alors on va ce soir aborder donc l'étude de la plus grande réussite missionnaire peut-être de tous les temps, enfin, mis à part peut-être l'évangélisation des premiers siècles, la mission à l'intérieur de la Chine dont le fondateur était Hudson Taylor. Hudson Taylor était un homme qui a eu une idée tout à fait nouvelle de la mission, une idée dynamique, et notamment le refus d'associer la culture européenne avec l'Évangile, le refus de se présenter avec la supériorité de l'homme blanc sur, en quelque sorte, le primitif, si tant est que les Chinois pouvaient être considérés comme primitifs, mais ils l'étaient. Il l'était par un certain nombre de gens. Et par le fait aussi que Hudson Taylor a eu la vision d'église nationale, de laisser donc le plus tôt possible aux autochtones la direction de l'église. Et ça a été alors quelque chose de tout à fait révolutionnaire en son temps, qui paraît évident maintenant, qui ne l'était pas au siècle dernier du tout. Et cette vision prophétique, en quelque sorte, de la mission a fait que lorsque les missionnaires ont été chassés de Chine, l'Église a pu subsister. Hudson Taylor était lui-même issu d'une famille chrétienne. Son grand-père et sa grand-mère étaient des chrétiens méthodistes. Sa grand-mère avait été miraculeusement guérie au moment du réveil méthodiste. Et son grand-père s'était converti le jour de son mariage, après avoir entendu Wesley prêcher sur le thème « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et le jour de son mariage, il a été, absolument le matin, il a été interpellé par cette parole. Et ce matin-là, avant de se lever pour aller au mariage, il a donné sa vie au Seigneur. Et ce qui l'a amené à arriver en retard à son propre mariage. Et en sortant de l'église, il a annoncé qu'il avait changé de vie et que par conséquent, il interdisait toute réjouissance déplacée à l'occasion de son mariage. Et il est devenu donc méthodiste. C'était un homme qui était un maçon. Il a eu un accident de travail et il a dû abandonner son métier. Et il a commencé à prêcher l'Évangile en tant que prédicateur laïque, là où l'Évangile, il n'y avait pas eu de témoignage méthodiste. Il a commencé une œuvre chez lui et il a eu un fils qui s'appelait John Taylor, qui était le père d'Hudson, qui s'est marié donc avec une certaine Mary Shepherd, dont il a eu 7 enfants. Et John était aussi un homme qui s'est mis à servir le Seigneur, notamment par des talents musicaux. C'était un homme qui avait un sens de la musique et il s'est occupé d'enfants. S'est occupé d'école du dimanche, il a rassemblé 600 enfants et il a consacré au Seigneur son fils premier-né, qui était justement Hudson, qui est né le 21 mai 1832. Très vite, Hudson s'est révélé comme un enfant très intelligent. À 4 ans, il a commencé lui-même à apprendre l'alphabet hébreu. Ça voudrait qu'il faut le faire. Bon, il avait aussi un frère et une sœur plus jeunes. Et dès l'âge de 5 ans, il a été sensibilisé à ce qu'était la mission, notamment les ténèbres dans lesquelles se débattaient les peuples païens. Et dès l'âge de 5 ans, il a décidé qu'il deviendrait missionnaire en Chine. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Peu de temps après, il a eu la douleur, enfin ses parents surtout, ont eu la douleur de perdre leur deuxième fils, William. Et Hudson a continué à s'intéresser à la mission et il a constaté qu'en Chine, il n'y avait pratiquement pas de témoignage évangélique. Il y avait un seul poste qui avait été créé par un certain Peter Parker à Canton. Et par conséquent, qu'il était prêt, lui, à faire ce qui était nécessaire pour aller beaucoup plus loin. Hudson Taylor était de santé fragile et ses parents ont ri de son idée d'aller en Chine et pensaient que il n'aurait pas la résistance nécessaire pour quelque chose d'aussi difficile. C'était l'époque où la région où habitait Hudson Taylor, le jeune Hudson Taylor, était touchée par le réveil. Et malgré tout, Hudson n'a pas véritablement profité de ce réveil, il est encore trop jeune. Et à 17 ans, il a connu un moment difficile où il a été amené à s'éloigner de Dieu. Il étudiait à l'école dans une atmosphère de mondaine, et de copains incrédules. Et il a été séduit, il a été entraîné par l'impiété de ses camarades. Il est entré dans une banque pour y travailler après ses études. Il est resté peu de temps d'ailleurs. Et là, il a senti l'appel de Dieu à revenir à Dieu de tout son cœur. Et bon, il n'avait pas envie de revenir à Dieu. En fin de compte, il avait pris une autre orientation. Mais il n'avait pas la paix et il sentait le Seigneur qui travaillait son cœur. Et un jour, il avait un traité, parce que sa mère priait pour lui en particulier, il y avait un traité qui traînait. Puis le thème de ce traité était intéressant. Et Hudson Taylor, qui connaissait le message de l'Évangile par cœur, parce qu'il l'entendait constamment chez lui, n'est-ce pas, et il s'est dit, tiens, ce traité me semble intéressant, je vais le lire jusqu'au moment où il commencera le refrain habituel sur l'Évangile, la repentance, etc. Bon, là, je m'arrêterai de le lire, mais la première partie, ça l'intéressait. Il a lu le traité. Et puis, quand il est arrivé au moment où le traité parlait de l'Évangile, il a été profondément interpellé dans son cœur. Et notamment, ce qui l'a touché, c'était les paroles qu'il y avait dans ce traité, l'œuvre accomplie par Jésus-Christ pour nous. Soudain, il a compris que Jésus-Christ était mort pour lui, ce qu'il savait fort bien sûr, mais il ne l'avait jamais réalisé, et là, soudain, c'était le Saint-Esprit qui éclairait ses paroles pour lui. Et ce soir-là, donc, à la lecture de ce traité, il a donné sa vie au Seigneur. Il est revenu au Seigneur, plus exactement. Immédiatement, il a fait part à sa mère de la bonne nouvelle, et sa mère lui a dit, « Bien, écoute, hier, j'ai eu l'assurance que le Seigneur avait touché ton cœur, et je ne suis pas du tout surprise de ce que tu m'annonces ce soir, parce que je le savais, le Seigneur m'avait donné cette certitude qu'il avait touché ton cœur. » Par conséquent, il revient au Seigneur de tout son cœur, mais c'est quand même encore un moment où il n'est pas tout à fait affermi. Il va connaître encore des périodes de tiédeur. Néanmoins, il ne veut pas de moyen terme et il veut voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. Il veut voir une entière victoire sur le péché, c'est quelque chose qui le tourmente. Et pendant ces mois qui vont suivre son retour à Dieu, il va faire des expériences profondes dont il ne parlera pas beaucoup d'ailleurs. Et c'est l'époque où l'appel pour la Chine revient très fort dans sa vie, dans son cœur. Il a alors 17 ans et demi et il réalise que la Chine est une terre inconnue pour les Occidentaux. Il y a quelques portes ouvertes pour les étrangers, mais personne n'a le droit, aucun étranger n'a le droit de pénétrer à l'intérieur du pays. Et le fardeau qui va peser sur le cœur de Hudson Taylor, c'est précisément l'intérieur de la Chine. L'extérieur, enfin c'est-à-dire les côtes, quoi, hein, sont relativement accessibles pour les compagnies commerciales, les compagnies marchandes. Donc, à la limite, il est possible d'évangéliser sous couvert d'activités commerciales ces régions-là. Mais alors, l'intérieur du pays est totalement interdit aux étrangers. Et il essaie de se documenter sur la Chine. Il se rend compte qu'il y a peu de documentation sur l'intérieur de la Chine, précisément parce que personne n'a vraiment pu y pénétrer. Il fait part à son pasteur de son appel. Le pasteur n'y croit pas, le tourne en ridicule. Et c'est alors qu'il entreprend, lui, convaincu qu'un jour il ira en Chine d'apprendre le chinois tout seul. Il a trouvé un évangile de Luc en chinois, et c'est à partir de cet évangile de Luc qu'il va s'efforcer d'apprendre le chinois. Il déchiffre, n'est-ce pas, avec l'aide d'un dictionnaire, il fait lui-même un dictionnaire, il n'a pas de dictionnaire à sa disposition, mais à partir de l'évangile de Luc, ce qui montre l'intelligence qui est la sienne, et il entend créer une société pour évangéliser l'intérieur de la Chine. Au début de l'année 1850, il apprend qu'un missionnaire est revenu de Hong Kong. C'est un homme qui s'appelle le docteur Gustave et qui fait une tournée en Europe en faveur de la Chine. Il n'est pas missionnaire lui-même, il est en fait membre de l'administration britannique, mais il a fondé en 1830 une société pour l'évangélisation de la Chine. Le docteur Gustave voyage dans tout le pays et Hudson Taylor s'arrange pour venir l'entendre, pour venir l'écouter. Gustave est apparenté à la mission Morave et aussi à George Müller. Et à partir de ce moment-là, où il entre en contact avec les quelques missionnaires qui travaillent là-bas, il va recevoir régulièrement les périodiques qui sont publiés sur la Chine. Et il écrit donc à toutes les associations qui travaillent pour la Chine pour recevoir toutes sortes de renseignements complémentaires à partir de ce qu'il trouve dans ces revues-là. Quand il rencontre le docteur Gustave, il pensait qu'il avait affaire à un missionnaire. Et en fait, il se rend compte qu'il n'est pas véritablement missionnaire. Il apprend de sa bouche que l'œuvre est très très superficielle, même dans la région de Canton, et que souvent les évangélistes n'étaient pas des véritables hommes de Dieu. Le docteur Gustave meurt un an après que Hudson Taylor l'ait rencontré, donc il perd en sa personne un intermédiaire précieux pour la Chine, pour ses projets. Et c'est l'époque où la mission Morave commence à travailler au Tibet. Hudson Taylor leur écrit et il reçoit de leur part deux lettres. C'est alors que le diable va essayer d'intervenir pour détourner Hudson Taylor de sa vocation en la personne d'une jeune fille qui lui est présentée en cette année 1849. Elle s'appelle Amélie, elle est professeure de musique et dès la première rencontre, Hudson Taylor en tombe éperdument amoureux. C'est une chrétienne méthodiste, par conséquent, rien en apparence ne s'oppose à ce qu'il se marie. Et donc, il lui fait part de ses sentiments pour elle. Mais dès qu'il évoque sa vocation, il se rend compte qu'Amélie hésite. Elle ne se voit pas tellement aller en Chine. Par contre, Hudson Taylor continue, lui, dans son idée, et pour ce faire, il étudie aussi la médecine, pensant qu'il aurait certainement besoin aussi de quelques rudiments de médecine dans son futur ministère. La société Morave, qui évangélise donc le Tibet et un peu la Chine, se déclare prête à lui payer ses études de médecine, tant et si bien qu'il entre comme apprenti chirurgien chez un médecin, un chirurgien qui s'appelle le docteur Hull, H-U-2-L. Là, il va s'installer dans une vie assez confortable. Il fréquente donc cette demoiselle Amélie, et là, il va s'installer dans une petite routine. Petit à petit, il se rend compte que Amélie n'est pas une fille dont la vie est véritablement entièrement livrée au Seigneur. C'est l'époque où le réveil de Plymouth bat son plein et Hudson Taylor fréquente les frères et avec eux il va porter l'évangile dans les bas-fonds. Et c'est alors qu'il se rend compte que petit à petit sa fréquentation de cette jeune fille est incompatible avec sa vocation, que le Seigneur lui montre qu'il faut qu'il renonce à ce mariage qu'il envisageait. Et que ça fait partie aussi du renoncement que le Seigneur lui demande. Hudson Taylor se rend à Londres dans le cadre de ses activités, et là il rencontre un missionnaire allemand qui lui dit tout de go qu'il n'est pas du tout, il n'a pas du tout le profil pour faire un missionnaire pour la Chine, qu'il vaut mieux qu'il continue à évangéliser les pauvres de Londres comme il le fait là, et qu'il n'est pas du tout fait pour ça. Alors il y a tout un combat, il y a d'abord la vie facile dans laquelle il est, une carrière médicale qui s'ouvre devant lui, qui lui permettrait de vivre tranquillement, ses projets matrimoniaux qui sont incompatibles avec une vocation pour la Chine, le conseil que lui a donné ce missionnaire allemand de ne plus penser, de tourner la page en ce qui concerne la Chine, tant et si bien que finalement il commence à se désintéresser de la Chine. Amélie lui dit tout de go que de toute façon elle n'acceptera jamais de le suivre en Chine. Le père d'Amélie fait aussi pression pour Hudson Taylor pour qu'il se détourne de sa vocation. Et pendant tout un temps, Hudson Taylor se demande si effectivement il ne s'est pas trompé. C'est alors que le Seigneur le saisit à nouveau et il décide d'abandonner tout cela. Et là, donc, il rompt avec sa fiancée. C'est évidemment une grande épreuve pour sa foi, mais là, il saisit la victoire. La Chine redevient donc au premier plan de ses pensées. Et il se prépare, il se prépare. Il ne sait pas comment il arrivera là-bas, mais il sait qu'un jour, il arrivera en Chine. Alors, pour se préparer, il se dit que certainement, il ne mangera pas toujours à sa faim. Alors, il s'impose volontairement des privations, ce qui lui permet d'économiser d'ailleurs le peu d'argent qu'il a pour le mettre de côté pour l'œuvre de Dieu en terre lointaine. Et sa mère s'inquiète de le voyant maigrir. Lui-même ne se sent pas encore assez fort dans la foi pour être prêt à partir. Tant et si bien qu'il continue à se former dans une espèce d'ascétisme. Un jour, on a oublié de lui payer son salaire, alors il considère que c'est le Seigneur qui lui permet ça pour se préparer donc, à ce qui l'attend. Il se propose aussi de s'embarquer comme marin dans un bateau pour pouvoir atteindre la Chine. C'est son but. Et finalement, la compagnie maritime à laquelle il s'était présenté estime qu'il n'a pas l'étoffe de faire un marin et les conduit. Donc, il se retrouve à zéro. Alors, il se rend compte aussi que les études médicales risquent de l'entraîner dans un chemin qui ne serait pas celui de Dieu. Il arrête donc ses études médicales. Et d'ailleurs, ça correspond aussi avec le moment où la société d'évangélisation lui a fait savoir qu'il n'était plus en mesure de lui payer ses études. Alors, son père l'invite à venir le remplacer dans l'entreprise familiale. Et le 26 septembre 1862, il arrive à Londres après avoir abandonné ses études. Il s'installe à Soho, le quartier malfamé de Londres. Et là, il vit avec le minimum, tout en ayant d'ailleurs des ennuis d'argent. Il continue à travailler dans un hôpital pour pouvoir évidemment subvenir à ses besoins. Et puis un jour, en disséquant un cadavre, il se pique. Il attrape une septicémie et il se voit aux portes de la mort. En principe, il sait qu'il n'a plus que quelques heures à vivre. Et il se prépare à la mort et le Seigneur lui montre qu'il va le guérir et qu'il l'enverra là-bas. Et de fait, il guérit miraculeusement. Et là, il comprend que maintenant, le temps arrive pour lui d'aller en Chine. Une société, précisément une société missionnaire, entre alors en contact avec lui et lui demande s'il est éventuellement prêt à se rendre en Chine comme missionnaire indépendant. Il voit la main de Dieu. La société missionnaire lui dit la société missionnaire est prête à lui payer le voyage jusqu'en Chine, mais pas à subvenir à ses besoins là-bas sur place, parce que les exigences de sécurité sont trop contraignantes. Hudson Taylor a déclaré tout de go que ce qu'il visait, c'était Pékin. Et s'il arrive à Pékin, forcément, c'est la fin de l'isolement de la Chine. Ça, c'est pratiquement impensable. La société vient de publier un nouveau testament en chinois et elle revise ses statuts pour pouvoir accueillir un démissionnaire indépendant dans son sein. Et c'est ainsi que, quelques mois plus tard, elle fait savoir à Hudson Taylor est-ce qu'il est prêt à partir immédiatement, il y a un bateau en partance pour la Chine. Donc en 1853, Hudson Taylor s'embarque comme l'unique passager sur un petit voilier qui part vers la Chine. Sans le savoir, le même jour exactement, un missionnaire part de Boston pour la Chine. Sur ce petit voilier, jusqu'à la Chine, le voyage dure 5 mois et demi sans toucher terre. Et ce n'était pas les Boeing à cette époque-là. Hein. Et ces 5 mois de mer ont été une grande bénédiction pour Hudson Taylor, malgré le fait que le bateau est pris dans une épouvantable tempête et risque de se fracasser sur les rochers. Mais Hudson Taylor est sûr de son appel et il est sûr que le Seigneur va intervenir et de fait, le bateau est sauvé miraculeusement. Le 1er mars 1854, après un voyage particulièrement difficile, Hudson Taylor débarque en Chine. Il arrive dans l'estuaire d'un grand fleuve, c'est l'hiver, il fait un froid terrible, et la tempête souffle, et c'est l'époque où il y a tension aussi entre la Russie et les puissances occidentales, tension qui va conduire à la guerre de Crimée, ce qu'on appelle la guerre de Crimée, et qui a pour résultat aussi que des graves troubles ont lieu en Chine. Donc le moment est fort mal choisi pour Hudson Taylor de débarquer là-bas. Le 1er mars, il arrive à Shanghai, où il ne connaît absolument personne. Et c'est un moment extrêmement difficile. Là, il se sent vraiment loin des siens. Et il se rend à la mission de Londres qui l'a envoyé là-bas. Il est accueilli par un groupe de missionnaires qui lui parlent de la situation en Chine, la guerre qui fait rage, les tortures qui attendent les Blancs s'ils tombent entre les mains justement des Chinois, etc. Hudson Taylor commence dans cette mission à apprendre le chinois, c'est la première chose à faire évidemment. Et la situation se dégrade entre Européens et Chinois. Des échauffourées éclatent, des escarmouches armées. Et dans cette situation-là, Hudson Taylor comprend qu'il n'a aucune chance d'entrer en contact avec les Chinois. Il est un blanc et par conséquent, il est un ennemi. Depuis les murailles, il loge dans une chambre qui est près des murailles, il entend les explosions des fusils, des canons, etc. Et puis, Shanghai, qui est une concession qui a été accordée aux Anglais, concession par les Chinois, est une ville très mondaine, et ça aussi, il est très déçu. C'est une ville de commerce, de finance. Et là, il passe par une phase de découragement, il se sent vraiment très seul. Et dans cette mission où finalement il n'y a pas tellement de vie spirituelle profonde, il est aussi un peu déçu. Alors il recherche une maison, et il va louer une maison de 12 pièces, loin justement de tous les combats. Il a des ennuis d'argent aussi, bien sûr, pour payer cette maison-là. Heureusement qu'arrive justement un missionnaire qui l'a rencontré là-bas, et qui va pouvoir ainsi un peu l'aider. Et ne connaît pas encore bien la langue, alors il a des traités en chinois. Et tout ce qu'il fait pendant les premiers mois, c'est de distribuer autour de lui les traités qu'il a amenés avec lui, qui lui sont fournis d'ailleurs par la mission. Il fait des tournées qui l'amènent à 15-20 km de Shanghai pour distribuer dans les villages les traités qui sont avec lui. Et en 1855, il va commencer un travail beaucoup plus profond. Ce travail qu'il a commencé depuis Shanghai, il va le poursuivre en partant en bateau sur le grand fleuve, n'est-ce pas ? Et à toutes les escales du bateau, il descend et il distribue des traités. Et il arrive jusqu'à la ville de Keqing, ce qui est déjà peu banal pour un blanc. C'est pas encore la Chine vraiment profonde, mais enfin, il s'est quand même passablement éloigné des côtes. Son travail n'est pas du tout facile, il est souvent pris à partie par la populace quand ces dernières se rendent compte qu'il est blanc. Et Keqing très exactement, c'est une vieille ville qui date de 1000 ans avant Hudson Taylor, et c'est un lieu où l'évangile n'a jamais été prêché. Après ce premier voyage missionnaire, pourrait-on dire, Hudson Taylor revient à Shanghai, et il décide qu'il va faire de Shanghai son centre, d'où il va rayonner vers l'intérieur. Néanmoins, si les plans qui avaient été les siens s'étaient réalisés, ils n'auraient pas été ceux de Dieu. Il commence aussi par se rendre compte qu'il y a plusieurs dialectes chinois et qu'il faut qu'il apprenne un autre dialecte pour pouvoir accéder à ces gens-là. Et c'est ainsi qu'en janvier 1855, il va partir seul, après avoir acheté un bateau. Et là, avec une audace incroyable, il s'aventure dans des endroits qui sont infestés de contrebandiers et de bandits. C'est l'hiver, le bateau est pris dans les glaces qui en sont sur le fleuve, il est obligé de casser la glace pour continuer à avancer. Finalement, il revient à Shanghai en février de cette année-là. Et un an exactement plus tard, février-mars 1855, il va entreprendre par fleuve et aussi un troisième voyage missionnaire et qui l'amène autour d'un lac qui s'appelle le lac Shuderu. Son voyage ne va pas durer tellement longtemps, un bon mois, et il apprend en route que Shanghai connaît des troubles importants, que les Chinois ont attaqué la ville, que la ville est en feu. Alors il rentre précipitamment. Là, il se rend compte que 2000 personnes ont été tuées et torturées par les Chinois, mais heureusement, la concession missionnaire n'a pas été touchée. C'est la première fois et la seule fois où il va déroger du principe qu'il s'est fixé quand il est parti pour la Chine, ne jamais demander d'argent à personne, si ce n'est à Dieu. Là, il le fait. Il est tellement désemparé qu'il le fait. C'est l'égarement d'un moment. Et puis, il se rend compte, il se reprend très vite, et alors il envisage de travailler dans un port pour subvenir à ses besoins. Il le fait jusqu'à l'année suivante, et là, il va entreprendre un quatrième voyage missionnaire, comme les précédents. Et notamment, il va avoir avec lui non seulement les évangiles, mais également des médicaments. Il distribue aussi, il soigne les malades. Il se rend compte aussi que cette manière de faire lui ouvre les portes. Les gens l'accueillent, bien qu'il soit blanc, parce que justement, il a des moyens thérapeutiques qu'ils ne connaissent pas. Et pendant ces quatre voyages missionnaires, Hudson Taylor va distribuer 3000 Nouveaux Testaments, 7000 livres et traités. Déjà considérable. À son retour de ce quatrième voyage missionnaire, il prie le Seigneur de lui envoyer un don pour pouvoir construire un hôpital. Et miraculeusement, c'est le premier miracle financier dont il fait l'expérience, mais pas le dernier, le Seigneur lui envoie le don pour l'achat d'un terrain. On est encore loin de la construction de l'hôpital, mais en tout cas, le terrain est là, il lui appartient. Et là donc, il va se rendre dans une ville qui est située à 45 km de Shanghai, qui se nomme Tsiming, avec le missionnaire qui est arrivé de Boston et qu'il a rencontré, qui s'appelle M. Burton. Et là, il va entreprendre, en avril de cette année, un cinquième voyage qui va l'amener à remonter le fleuve du Yangtze-Kiang jusqu'au moment où il est arrêté par des soldats chinois qui le brutalisent, qui l'emprisonnent. Et finalement, ils seront libérés par les mandarins du lieu. C'est la première expérience au cours de laquelle il est conscient qu'il risque sa vie. Hudson Taylor est encouragé par les premières expériences qu'il a faites en Chine, malgré les difficultés. Et il se pose comme principe, après avoir cherché la face de Dieu, de prêcher l'évangile là où Jésus n'a jamais été proclamé. C'est pourquoi donc il entreprend un sixième voyage missionnaire, toujours cette même année 1855, seul cette fois-ci, et il revient donc en juin, le 1er juin. Son but maintenant, c'est d'essayer d'atteindre Nankin, la capitale des Taiping, n'est-ce pas, qui sont des rebelles. Ce sont des rebelles, c'est pas extraordinaire. C'est un voyage pour lui de 560 km sur le Yangtze-Kiang, qui l'amène à visiter 58 villes sur le cours de cet immense fleuve. C'était 620 km à vol d'oiseau, mais avec les méandres du fleuve, ça fait un parcours d'à peu près 800 km. Et c'est là, pendant ce voyage, qu'il reçoit de Dieu une vision. Une vision lui disant que le Seigneur est avec lui, le Seigneur va lui donner une extraordinaire moisson d'âme. Pour le moment, c'est pas encore brillant. Pour le moment, il n'a pas encore amené une seule âme à se convertir. Juste après cette vision, eh bien précisément, le premier Chinois se convertit par son témoignage et c'est le premier qu'il baptise. C'est un jeune cuisinier. Et dans cette ville de Tianmin, il va louer une grande maison dans laquelle il va installer une école. Et le dimanche, cette école devient un lieu où il prêche l'évangile. Début juin, il va voyager à nouveau avec M. Burton. Et du 12 au 27 juin, il entreprend son troisième voyage, qui l'amène à rencontrer les pirates. Les pirates qui sont les terreurs, justement, de la Chine. Puis il revient à Shanghai. À Shanghai, on lui fait la société qui, avec laquelle il était en contact lui fait savoir que il n'est plus persona grata sur le territoire de la mission. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que Hudson Taylor a décidé de se vêtir comme un Chinois. Il s'est rendu compte avec quelle hostilité les Blancs étaient considérés en Chine. Et il se dit que pour pouvoir gagner les Chinois, c'était le sens aussi de la vision que le Seigneur lui avait donnée pendant qu'il était en voyage sur le Yangtze, le Seigneur lui a attiré son attention sur le texte de Paul où il faut se faire tout à tous. Et Hudson Taylor décide d'aller à fond dans cette voie. Il abandonne ses vêtements européens, s'habille comme un Chinois, va manger comme un Chinois, avec les baguettes, le même régime alimentaire que les Chinois. Bon, il parle le chinois déjà, évidemment, à peu près couramment à cette période-là. Et alors, ça, c'est très très mal vu par les missionnaires. Et alors, cela amène une rupture avec les missionnaires. Il va se trouver seul, complètement seul. Et il se trouve devant un veto définitif de la société. Et alors il comprend qu'il ne peut pas faire de Shanghai sa base permanente. Il va s'installer dans le terrain qu'il a acheté pour construire un hôpital, et il va aussi essayer d'y construire une maison pour lui. Commence alors pour lui une vie errante, en quelque sorte, il va de lieu en lieu. Et comme il allait justement partir, on lui propose une maison. Et alors il se rend compte que quand il vit comme un Chinois, la vie devient beaucoup plus facile, le témoignage devient beaucoup plus facile. Après cette rupture avec les missionnaires, il va vivre 3 semaines une vie totalement solitaire, et au bout de cette période-là, les missionnaires lui demandent de revenir. Et puis c'est le moment où il est arrêté par les autorités chinoises avec un autre missionnaire qui s'appelle William Burns. Et c'est tout à fait intéressant parce que les Chinois, les autorités chinoises, inquiètent les missionnaires protestants, mais pas les missionnaires catholiques. Un autre missionnaire écossais est aussi arrêté avec eux, il s'agit d'un certain M. Burns. Finalement, ils sont relâchés au bout de quelques temps, et en décembre 1855 jusqu'en janvier 1856, ils commencent un 10e voyage. Ils quittent Shanghai avec Burns pour la ville de Nosin. Et Burns a aussi acheté un costume chinois, et là, ils entrent en contact avec l'idolâtrie des Chinois. Ils se rendent compte dans quelles ténèbres ce peuple chinois est entré. Et là, il prend aussi contact avec leur musique. Alors il va commencer à prêcher contre ces choses. Il dénonce avec force l'idolâtrie et les aberrations justement de la religion des Chinois. Alors les Chinois réagissent, les autorités, les prêtres, et les prêtres vont essayer de détruire son bateau. Heureusement, une tempête éclate à ce moment-là et les éléments sont tellement déchaînés que les prêtres ne peuvent pas aboutir à leur fin. Et Hudson Taylor est averti de ces projets-là. Il attend de sauver son bateau, en quelque sorte, et il se met à l'abri chez des contrebandiers. Là, il tombe malade, n'est-ce pas ? Puis donc, il rentre à sa base. Et le 28 juillet 1856 jusqu'au 18 février, il va entreprendre un 11e voyage. Là, il rencontre un marin européen, chrétien, qui leur fait part de la situation terrible dans laquelle se trouve une région qui est située autour de la ville de Sabatou, dans laquelle déjà des étrangers ont essayé de prêcher l'évangile. Là se trouve, dit ce capitaine de navire, les rebuts de la société, les pirates, les contrebandiers, etc. Mais ces gens-là ont besoin de l'évangile. Alors, Hudson Taylor voit dans cette, euh, ce témoignage qui lui donnait un appel de Dieu, il sent que le Seigneur l'appelle là-bas, et il se rend dans ce bouge, en quelque sorte, ce lieu des plus mal famés qui soit, c'est pas ? Et là, il va louer une chaumière, et là, il se rend compte que ces gens parlent un autre dialecte qu'il ne connaît pas. Il va donc apprendre un troisième dialecte chinois. La ville de Sabatou est le centre du commerce de l'opium, d'esclaves, de prostituées, de tout ce qu'on voudra. De là, l'opium est envoyé en Amérique du Sud. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont des Blancs qui coordonnent ce commerce de l'opium. Et les Chinois haïssent les Blancs justement parce qu'ils exploitent le commerce de l'opium. Le commerce de la drogue se passe sous la protection de ces Blancs-là, et la ville est véritablement une ville pervertie. Alors Hudson Taylor est d'autant plus déterminé à prêcher l'Évangile à ces gens qui en ont véritablement besoin. Et là, donc, il tombe à nouveau malade. Le Seigneur le rétablit et il ouvre un dispensaire qui lui permet de distribuer des médicaments et de mettre en pratique les connaissances de médecine qu'il a acquises. En juin, Burns le quitte. Ils ne se retrouveront plus jamais. Burns retourne à Canton qu'il veut évangéliser. Puis de là, il va passer dans la région de la Grande Muraille et en Mandchourie. Il va mourir là-bas, d'ailleurs, le 8 avril 1858. De son côté, quelques mois après avoir distribué l'Évangile, prêché l'Évangile à tous ces gens-là, distribué des évangiles nombreux en particulier, Hudson Taylor revient à Shanghai. De là, il s'installe à Mingo pour apprendre justement que, alors qu'il veut transférer ses affaires depuis Shanghai à Mingo, eh bien, ses affaires ont été volées. Donc, il se trouve démuni de tout. Il est obligé de coucher sur la dure, si on peut dire. Il écrit une lettre de pardon à son voleur en disant qu'il lui pardonne de lui avoir volé, en disant si jamais il dépose cette lettre dans l'endroit où est son ancienne chambre. Et c'est Georges Müller qui va récupérer cette lettre. Cette lettre va arriver à Georges Müller parce qu'un missionnaire va la récupérer, l'enverra en Angleterre et la publiera dans les journaux, montrant qu'elle était le désintéressement et la grandeur d'âme de ce missionnaire, ce jeune missionnaire qui se trouve en Chine. Georges Müller est tellement ému par cette lettre qu'il envoie à Hudson Taylor l'équivalent de la somme qui lui a été volée pour le dédommager. Le Seigneur emploie ainsi Georges Müller pour permettre à Hudson Taylor, par son désintéressement, de sortir de son état. Hudson Taylor entre en contact avec une organisation missionnaire qui s'appelle la Chinese Mission Society. Et là, il y a une demoiselle, qui s'appelle Mademoiselle Adèle C. Et avec elle aussi deux jeunes orphelines, Patricia et Marie, hier, qui sont élevées par cette vieille demoiselle. Leur père était un agent de la mission de Londres qui est mort sur le champ missionnaire. Et là, il apprend que son collaborateur, Burns, a échappé à une exécution sommaire, mais est en prison à Canton. La mission a été détruite et les autorités britanniques font tout leur possible pour essayer de le faire libérer, ce qui sera le cas. Donc Hudson Taylor retourne à Mingo et là, il va établir ce qui deviendra le quartier général de la mission qu'il va créer un peu plus tard, China Inland Mission, mission à l'intérieur de la Chine. Petit à petit, il reçoit des dons qui lui permettent de créer une école de garçons et un dispensaire. Et petit à petit, il va rencontrer d'une manière de plus en plus fréquente la jeune Marie d'hier, qui se trouve être cette orpheline qui est sous la direction de Mademoiselle Adelcé. Et elle se rend compte que cette jeune fille a un véritable appel missionnaire. Mais alors qu'il commence à avoir des sentiments pour elle, cette dernière lui fait savoir d'une manière très nette qu'elle n'a pas du tout envie de se marier. À l'automne, la guerre éclate entre la Grande-Bretagne et la Chine. Des Européens sont massacrés et les Européens qui se trouvent à Mingo sont menacés. Le complot est heureusement ébruité, mais Shanghai est entre les mains des Chinois. Hudson Taylor apprend que l'aîné des deux filles d'hier s'est fiancé avec M. Burton. Hudson repart pour Shanghai en laissant tout son monde à Mingo. Là, il y a des nombreux réfugiés qui sont venus de Shanghai. Lui-même est amoureux de la plus jeune des deux, les deux filles d'hier. Et les missionnaires qui sont autour d'elle l'encouragent à lui demander sa main. Mademoiselle d'hier refuse une deuxième fois, bien qu'elle l'aime, mais il y a derrière aussi l'opposition de mademoiselle Adelsey. En 1857, les trois demoiselles quittent la Société pour l'évangélisation de la Chine parce qu'elles ont des dettes, ce qui est contraire à l'écriture, et les tentatives d'empêcher le mariage se poursuivent. Et pour mademoiselle Adelsey, que sa protégée épouse cette espèce de missionnaire qui n'est sans attache, qui vit comme un Chinois, ce serait une mésalliance pour sa protégée, pour sa pupille. Et donc, c'est l'impasse. En 1857, Hudson Taylor a la joie de voir un autre jeune homme se convertir, c'est le deuxième. Voyez-vous, tant d'années pour deux convertis, de celui qui deviendra un des plus grands missionnaires de l'histoire. Ça montre que parfois, il faut une grande persévérance. Et ce jeune homme lui demande alors cette question qui va le bouleverser. Il dit, mais vous, en Angleterre, là, ça fait combien de temps, en fait, que vous avez l'Évangile ? Bon, quoi, ça fait quoi ? Ça fait 60, 70 ans ? Et Hudson Taylor répond, non, ça fait 18 siècles. Enfin, pas 18 siècles, ça fait peut-être 15 siècles. Alors, le Chinois, il dit, comment, 15 siècles ? Et c'est seulement maintenant que vous venez nous apporter ce trésor ? Alors, Hudson Taylor est absolument bouleversé par cette question de ce garçon, et quand il fera des tournées missionnaires en Europe, en Angleterre, il ne mettra jamais, ce sera toujours une des anecdotes qu'il citera les plus souvent dans ses prédications. À cette époque-là, on lui vole aussi ses vêtements chinois. Est-ce que c'est des Européens qui sont mécontents de sa manière de se vêtir ? En tout cas, il prie Dieu de pourvoir, de lui rendre, n'est-ce pas ? Et c'est alors qu'on lui rend à la fois ses vêtements. Et dans le même temps, n'est-ce pas, le 20 janvier 1856, il reçoit une lettre de Marie d'hier qui lui annonce qu'elle est enfin décidée à l'épouser. Et bon, le mariage a lieu quelque temps après, et ils s'établissent, donc le jeune couple s'établit à 15 km de Ningbo, dans une ville qui s'appelle Molitsky. C'est alors que tous les deux, le mari et la femme, attrapent la typhoïde, une maladie dont on réchappe peu à cette période-là. C'est aussi l'époque où la révolte des Pai-Ping est à son apogée, et la mission est aussi menacée par ces terroristes-là. Pékin est en passe de tomber, et en plus de ça, les récoltes sont compromises par des fortes pluies qui les ont ravagées. L'œuvre missionnaire souffre, enfin, tout va mal, quoi. Hudson lui-même est sans aide, les convertis sont peu nombreux, et c'est alors que Hudson Taylor tombe à genoux et prie le Seigneur. Le Seigneur commence par le guérir, lui et sa femme, première chose. Là, c'est encore une guérison quasi miraculeuse. Et en 1856, le 28 janvier, très exactement, il reçoit des autorités chinoises l'autorisation de pénétrer à l'intérieur de la Chine, ce qui était le but qui s'était fixé dès le commencement. Il faut dire que ce qui a provoqué ce bouleversement, c'est la victoire des Anglais sur les Chinois. Et les Anglais, la victoire de ce qu'on a appelé cette guerre de l'opium, fait que la victoire des Anglais légalise le commerce de l'opium sur toute l'étendue de la Chine. Et ce faisant, les commerçants d'opium ont le droit de pénétrer à l'intérieur de la Chine. Et dans la foulée des commerçants d'opium, les missionnaires aussi. C'est le paradoxe, n'est-ce pas ? Hudson Taylor, l'Évangile, profite en quelque sorte de cette terrible affaire, cette honteuse affaire, n'est-ce pas, de ce commerce de l'opium, pour pouvoir pénétrer dans cet endroit-là. Donc, Hudson Taylor se met en route. Il vient d'être guéri miraculeusement d'une manière tout à fait étonnante. Il y a parmi les convertis, les quelques convertis qui sont autour de lui, un vieillard qui se nomme Wang. Et un jour, alors qu'il est malade, on parle de la mort, Wang l'interpelle par trois fois et lui dit qu'il va guérir. Le Seigneur lui a montré qu'il fallait qu'il absorbe une certaine plante qui se trouve dans les environs de la ville. Et après avoir absorbé une tisane faite à partir de cette plante, effectivement, Edson Tiller et sa femme sont guéris. Un an après, donc, fille leur naît, ce nom Grace, et le 26 août, n'est-ce pas, son ami, plutôt la femme de son ami, le docteur Parker, décède, le docteur Parker lui-même, retourne en Europe et Hudson Taylor est obligé d'assumer aussi son ministère. C'est donc pour un temps ces plans de pénétration à l'intérieur de la Chine qui sont remis en question. Madame Taylor va le seconder d'une manière très très efficace et alors que la situation est dramatique, comme l'avons vu tout à l'heure, le Seigneur va pouvoir miraculeusement, au besoin justement de la station missionnaire qu'ils ont créée à Ningbo. Alors, l'œuvre prend une telle ampleur qu'en 1860, Hudson Taylor écrit en Angleterre pour demander qu'on lui envoie 4 ou 5 collaborateurs sérieux. Des mois passent sans que personne ne réponde. Sa lettre n'est pas du tout suivie d'effet. Et lui-même craint d'être atteint de la tuberculose, maladie mortelle à cette époque-là. Il réalise qu'il faut qu'il rentre d'urgence en Grande-Bretagne s'il veut sauver sa vie. Alors, il quitte la Chine avec ce vieux monsieur Wang. En 4 mois de traversée, il rentre en Angleterre. Pendant qu'il est sur le bateau, le Seigneur lui parle. Et Hudson Taylor est triste. Il dit, voilà, Seigneur, je t'ai demandé 5 collaborateurs. Et j'arrive même pas à en trouver 5. Le Seigneur lui dit, un jour, ce n'est pas 5 collaborateurs que tu auras, c'est 500 collaborateurs. Une sacrée foi à cette époque-là pour ça. Parce que la Chine, c'est loin. Alors, Hudson Taylor se fait à cette idée. Et il va consacrer le temps de son séjour là-bas à des travaux de littérature. Et alors, les nouvelles lui viennent de la Chine. Les nouvelles sont très mauvaises. On lui annonce que la station périclite. Alors, il décide de repartir. Puisque personne ne veut repartir, eh bien lui, malgré son état de santé déficient, malgré le fait qu'on lui interdit, les médecins lui interdisent de repartir, eh bien il repartira. Il va terminer ses études de médecine, plus une nouvelle version du Nouveau Testament en chinois. Et en 1862, il s'embarque à nouveau pour la Chine avec 2 collaborateurs, un couple, M. et Mme Meadows, qui s'embarquent avec lui. C'est le premier couple des 5 missionnaires qu'il a demandé à Dieu. Il part sans l'appui d'aucune mission, comptant uniquement sur la grâce de Dieu. En arrivant en Chine, les Meadows perdent leur enfant. Ça, c'est classique pour beaucoup de missionnaires. Mais d'autres candidats se lèvent. Et le 25 juin 1865, il demande au Seigneur 2 autres collaborateurs. Là, il retourne en Angleterre. Il va prêcher. Il va prêcher dans une grande convention en Écosse. Et là, il parle avec tout son cœur. Il cite cette interpellation de ce jeune Chinois. Et sa prédication fait une grosse impression sur la convention. 2 autres missionnaires se lèvent pour l'accompagner. Il s'agit de M. Stevenson et Scott. À cette époque-là, les Taylor ont déjà 4 enfants, il a déjà écrit 2 livres sur la Chine, et c'est le début, il crée donc sa société missionnaire qu'il appelle China Inland Mission, mission à l'intérieur de la Chine. Ce Stevenson va être un de ses meilleurs collaborateurs, qui va fonder 4 grandes stations. Et c'est le début de l'expansion extraordinaire, là, c'est un tournant. Le Seigneur va donner un grand développement à l'œuvre, à cette petite œuvre naissante. Et Hudson Taylor, à partir de cette fameuse convention, va devenir célèbre dans toute la Grande-Bretagne, et son travail aussi. Et alors, brusquement, alors que aucune église ne s'intéressait à la Chine, brusquement, toutes les églises vont s'intéresser à l'évangélisation de la Chine. C'est une espèce d'engouement pour la Chine qui va naître à partir de ce moment-là. Et Les collaborateurs vont se bousculer. Bientôt, il va avoir 16 missionnaires dans sa société naissante qui sont soutenus par la foi sans qu'ils fassent un seul appel d'argent. Par exemple, dans l'école biblique de Dublin, en Irlande, deux jeunes gens se lèvent, plus d'autres candidats qui vont suivre. George Muller fait des appels aussi pour lui. Et donc, le 3 mai, il s'embarque à nouveau pour la Chine. Il arrive fin septembre à Shanghai. Pendant la traversée, les marins se convertissent. Et puis, là, à nouveau, une terrible tempête s'abat sur le bateau. Le Seigneur met sa main à nouveau pour que le bateau arrive à bon port. 16 missionnaires, donc, c'est le plus grand nombre de missionnaires qui débarquent d'un seul coup en Chine. Et là, où loger tout ce monde-là? Eh bien, il achète un sampan, c'est-à-dire un de ces bateaux sur lesquels les Chinois habitent. Certains habitent sur des sampans jusqu'à aujourd'hui. Et ce sampan, ce grand sampan qu'il a acheté, va devenir une espèce de station missionnaire flottante qui va s'enfoncer avec ses 16 missionnaires à 100 km à l'intérieur de la Chine. Il arrive donc en 1866 dans la ville d'Anzhou. Là, il s'installe dans la demeure d'un mandarin qui l'accueille. Certains missionnaires sont maintenant confrontés aussi avec ce problème du costume chinois. Ça, c'est le principe que Hudson Taylor a imposé à son monde. Or, justement, c'est toujours le problème qui provoque de nombreuses critiques qui se répercutent jusqu'en Grande-Bretagne. Mais pendant ce temps, Seigneur commence à bénir d'une manière extraordinaire le travail. En été 1867, Hudson Taylor perd sa fille aînée, Grace, qui est âgée de 8 ans. À Anzhou, l'église s'accroît, grandit. Hudson Taylor emploie aussi des femmes, pas pour la prédication, mais pour la visite aux malades, etc. Et ça aussi, c'est mal vu en Angleterre. À Anzhou, là, Hudson Taylor se rend compte cette année-là que soudain, l'attitude des habitants de la ville est en train de changer et que l'hostilité à son endroit croît. On l'accuse d'enlever les enfants. C'était l'accusation classique. Les Blancs enlèvent les enfants chinois. Et finalement, il doit fuir précipitamment avec ses collaborateurs. C'est un des moments les plus dramatiques de son ministère. Les nouvelles de ces brutalités bouleversent la Grande-Bretagne. Et le gouvernement britannique envoie une flotte de canonnières qui remonte le Yangtze. Mais Hudson Taylor n'est pas du tout d'accord avec cette politique de la canonnière. Il a aussi des difficultés à cause du fait que certains membres de sa mission le trahissent. 5 collaborateurs le quittent. Il s'oppose de plus en plus à l'intervention armée de la Grande-Bretagne. Et finalement, on arrivera à un règlement pacifique de l'affaire. Il retourne à Anzhou. Les mandarins l'aident à remettre sa maison en état. Pourtant, il est aussi critiqué en Grande-Bretagne et on l'accuse, lui et les missionnaires, d'avoir mis par son imprudence, en essayant d'entrer à l'intérieur de la Chine, le pays, la Grande-Bretagne, à deux doigts de la guerre avec la Chine. Il en résulte une diminution des dons. Et donc des grandes difficultés pour la mission. Hudson Taylor se tourne vers le Seigneur et en profite pour approfondir sa communion avec le Seigneur. Et lui-même aussi fait une expérience de baptême dans le Saint-Esprit avec un de ses amis, McCarthy. C'est donc un moment creux dans son ministère et il sent bien que le Seigneur va donner des temps de renouveau. Et à la suite de ce baptême dans le Saint-Esprit, il s'attend à des grandes choses de la part de Dieu, ce qui va être le cas justement dans les années qui vont suivre. Et ça, si vous voulez, on verra la prochaine fois. Bien, est-ce que quelqu'un a des questions là-dessus? Juste un crayon, si ça ne tombe pas. Merci.